Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
CJMD, l'alternative radio.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes.
Bonjour, je m'appelle Caroline Thibault et bienvenue à l'émission Projet Anubis.
Salut tout le monde, content de vous retrouver. Je vais commencer en vous disant merci. La dernière émission, j'avais parlé de notre TikTok. Ceux qui n'étaient pas abonnés, je les invitais à le faire. Donc, dans la semaine qui a suivi, il y a eu plus de 600 personnes qui se sont abonnées. J'imagine que l'émission elle a eu un impact. Donc, merci beaucoup, puis continuez à partager ce qu'on fait, ça nous encourage à continuer. Dans une des émissions, j'avais parlé d'une enquête qui nous avait marqué beaucoup, d'une des enquêtes qui nous avait marqué dans la région de Repentigny, c'était une famille qui vivait des choses inexplicables. On avait été là 4 reprises sur une période de 2 ans et demi, si je me souviens bien, là. À chaque fois, on avait capté des choses, il y avait une entité qui semblait être un homme plus vieux, quand même assez âgé, avec l'intonation de la voix, qui lui répondait souvent par la négativité, par « qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici? C'est quoi tu veux? » Même qu'à un moment donné, on avait capté un PVE qui avait dit « je m'en vais te tuer ». Ça, c'est toutes des séquences qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, là. À chaque fois, on était mal dans la maison. C'est une très belle maison, là. C'est l'énergie qui était à l'intérieur qui faisait que on se sentait pas bien. La famille, voyaient, entendaient des choses. Les enfants ne pouvaient pas dormir seuls, dormaient tous dans la même pièce. Les parents, eux, l'homme, ça a pris quand même un peu plus de temps avant d'être témoin de quelque chose, mais la femme était plus réceptive. Elle entendait des cognements, des bruits de balles sous le lit, comme une balle qui rebondit, la lumière qui s'allume. À un certain moment donné, toute la famille a été réveillée par un cri, le cri d'un homme dans la maison. Donc, à ce moment-là, je pense que là, tout le monde était conscient qu'il se passait quelque chose d'anormal dans cette maison-là. Faut savoir qu'elle est située sur le bord d'une rivière. Donc, moi, j'ai toujours pensé que l'eau voyageait, faisait voyager de l'énergie. Puis malheureusement, mais dans certaines énergies, il y en a de la mauvaise. Et cette maison-là, vu qu'elle est sur le bord de l'eau et qu'il y a déjà un historique d'antise à cet endroit-là, je pense qu'il y a des mauvaises énergies qui ont passé dans ce coin-là. Et certaines choses qu'on captait n'avaient sûrement aucun rapport avec l'histoire de la maison. On avait déjà capté de l'italien. Donc, puis il n'y a pas d'italien. Même dans l'historique de la maison, là, il n'y a pas d'Italiens, puis même autour, qui sont dans ce secteur-là, là, dans l'histoire aussi. Là. Donc, on a décidé, on a parlé avec la famille. Ils vivaient encore des trucs, mais c'était quand même léger. Donc, je dis OK, on a pris un rendez-vous et on s'est rendu là. On a fait une enquête. L'enquête a duré que 2 heures. Pourquoi? Parce que ça a été très tranquille. Et pour moi, je voulais pas étirer la sauce parce que des fois, quand on étire, ça peut réactiver certaines choses vu que la tranquillité semblait être là. On s'est dit, OK, gars, on va analyser ce qu'on a puis on verra par la suite. Mais si on comparait avec les autres enquêtes d'avant, c'était très tranquille. On a capté des choses. L'analyse n'est pas terminée, là, mais ces choses-là, ça va être personnel à la famille parce qu'il y a eu un décès il y a quelques semaines, voire quelques mois, et eux, ils attendent une réponse, ils aimeraient avoir une réponse, et je pense que ce qu'on a capté, ça peut avoir un rapport à ça, parce qu'on n'a rien senti, absolument rien de négatif. Donc, on va voir à l'analyse, là, mais ça a été quand même une belle enquête. On finalise la boucle. Par la suite, ce qui va arriver, on met la famille en contact avec Patricia Lavoie. C'est un contact qu'on a depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves avec nous. Ce n'est pas une médium, c'est seulement quelqu'un qui travaille avec les énergies. Je vais vous donner un exemple qui m'a convaincu parce que moi, j'avais de la misère avec ça, je croyais pas à ça. Donc, on l'a emmené à un endroit où l'énergie, les champs électromagnétiques étaient très, très élevés. Donc, elle est venue avec nous, on lui a montré la pièce dans laquelle les champs magnétiques étaient élevés. L'homme était très sensible. La femme, elle avait aucun problème à dormir, mais le monsieur était très agressif depuis qu'il dormait dans cette chambre-là, depuis qu'il avait emménagé. Ne dormait très peu. Quand il arrivait à dormir un peu, c'est parce qu'il faisait dans le salon. Donc, on allume le melmeter, on réalise que le melmeter, c'est le détecteur de champs électromagnétiques, était dans le tapis. Je me souviens pas combien, mais il était vraiment très élevé. Et là, on a essayé de toutes sortes d'affaires pour aider la famille. C'est sûr que on a été là plusieurs heures. Là, ce qu'on a fait, première étape, c'est que on a réalisé que les champs magnétiques étaient très élevés du côté où il y avait la tête de lit. Donc, à ce niveau-là, de l'autre côté du mur, il y avait une tank à eau chaude. Il y avait un panneau électrique. Donc, c'était clair que ça aidait pas à la situation. Si le monsieur était ultra sensible à la base, c'est sûr que c'était pour lui nuire quand il se couchait la nuit, là. Vu qu'on était trois, on a proposé de prendre les meubles et de mettre la tête de lit en face de l'autre côté, juste pour dégager le plus possible, s'éloigner des champs magnétiques. Déjà, de l'autre côté, c'était beaucoup plus normal, si on veut, là. vu que Patricia était avec nous, elle nous a dit, OK, les gars, je vais essayer de faire quelque chose ici, juste me laisser quelques minutes dans la chambre, puis je vais vous dire quand revenez. Ça a pris 10-15 minutes à peu près. Elle a... Je sais pas comment qu'elle l'a fait, là. Quand on est rentré avec le détecteur de champ électromagnétique, le champ magnétique était normal. Comme quand on teste des lampes ou quoi que ce soit, des petits trucs qui dégagent l'électricité, ces affaires-là, c'était normal et ça l'avait droppé vraiment beaucoup. Puis il n'y a rien qu'elle aurait pu faire pour nous berner. C'était impossible. Là. Premièrement, le champ magnétique venait de l'autre côté du mur. Donc, il n'y a rien qu'elle aurait pu faire pour changer quoi que ce soit, à part ce qu'elle a fait. Elle a créé comme une barrière qui empêchait le champ magnétique d'aller de l'autre côté. Là où ça a été intéressant, c'est que le lendemain, vers midi, je reçois un appel. C'est la dame qui m'appelle pour me dire « Mon mari dort encore. » Puis je sais pas combien de fois qu'elle m'a remercié, là. Donc, on avait résolu le problème. Oui, on aurait juste pu mettre les meubles de l'autre côté. Il aurait quand même bien dormi. Mais en plus de ça, on a réussi à faire une barrière. Comme je dis, j'ai aucune idée comment elle a fait, mais elle a réussi. Puis ben par la suite, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et ça allait bien. J'ai eu une nouvelle comme un an après, puis tout était... c'était le parfait bonheur, parce que c'était un beau logement où ce qui était. Puis c'était vraiment triste, parce qu'il parlait de déménager. Donc, on a réglé ça. Fait que Patricia, elle va aller... dans cette famille-là pour faire ces trucs. Vraiment changer l'énergie. La famille mérite quand même depuis longtemps. Ils vivent... c'est un calvaire, là. Même si c'est tranquille, ils voient encore des trucs, puis c'est quand même dérangeant. Quand tu as l'impression de pas être chez vous, dans ta propre maison, il y a un problème. Donc, puis on tient contact. On se parle quand même, je vous dirais, 2 à 3 fois par année. Je vais demander des nouvelles, etc. Quand je voyais que c'était comme plus dérangeant, mais là, on s'arrangeait pour aller voir. Parce qu'il y a des moments dans l'année, sans savoir pourquoi, on va capter plus, je dirais, mieux, entre parenthèses. Sans savoir pourquoi, c'est peut-être parce qu'à l'époque, aux mêmes dates, il s'est peut-être passé des trucs. Moi, je sais que j'avais déjà fait des entrevues avec Alexandre Aubry. Lui m'avait dit, ah, mais ça se peut que c'est un peut-être à cause de la Lune ou les positionnements des planètes font en sorte que... Parce que quand on avait été arrivé à la guerre, je fais une parenthèse, là, il y avait été une dizaine de fois, puis une seule fois là-dedans où ce qu'on a capté des PVE, comme ça se peut pas. Et Alexandre Aubry nous avait invités à son émission. Puis il nous avait suggéré l'idée de les positionnements de planètes, etc. Ça pouvait avoir un impact. Ça se peut, je suis pas astrologue, mais c'est très possible. Donc, pour le moment, on attend la suite des choses. Je vais reparler avec la famille d'ici un mois. On verra la suite. Maintenant, côté technologie, on a un nouvel appareil. J'en parle parce que ça va être très intéressant. Je me suis procuré, vous irez voir sur Internet, là, sur YouTube, voir les... Il y a des séquences vidéo qui sont mises pour présenter l'appareil. C'est la Canon V10. C'est une caméra portable. Rentre dans une poche, là. Tu peux filmer à la noirceur presque totale avec. Il y a des micros incroyables. Je l'ai testé. J'ai fait un petit YouTube live hier quand je l'ai reçu, là. L'image est incroyable. Le son est très bon. Et ça va faire en sorte que on va vous... C'est comme si on vous amène avec nous pour les pré-enquêtes, pour les visites de lieux. Oui, les cellulaires, aujourd'hui, c'est des 20 mégapixels en montant et ça filme en 4K. Mais la caméra qu'il y a sur la façade de l'écran, c'est merdique. Ça fait du 5 mégapixels et je sais pas combien en vidéo, mais c'est mauvais quand que c'est compressé et que c'est mis sur un logiciel de montage. L'image est pas très, très belle. Donc, pour les TikTok, pour les YouTube, Facebook, ça va être beaucoup mieux. On peut faire des directs avec l'appareil directement, dans le fond, là. Donc, c'est comme si vous allez être avec nous à chaque place qu'on va aller visiter. Parce qu'il faut savoir une chose, nous, on se promène beaucoup, autant en voiture, en vélo, et on va souvent passer par des endroits qui sont réputés être hantés. On va se faire suggérer, hey, va voir à telle place, etc. Donc, avec cette caméra-là, on va pouvoir filmer, puis présenter, puis après ça, ben ça va, on va peut-être faire des enquêtes à partir de ce moment-là. C'est, dans le fond, c'est la caméra de pré-enquête. Donc, c'est la seule technologie nouvelle qu'il y a. On va travailler encore dans la prochaine année avec les mêmes appareils, les détecteurs de champs statiques, les champs magnétiques, les Ghost Box. On a une nouvelle Ghost Box, ça vient d'Europe. C'est, elle crée son propre bruit blanc. Ça fait déjà plusieurs reprises que je l'essaie, mais je perds pas espoir parce que la personne qui me l'a offert m'a dit que elle avait capté des PVA au travail de ça. Puis j'ai hâte de voir parce que moi, personnellement, la PSB7 et la PSB11, qui sont des générateurs de bruit blanc qui scannent des fréquences, il y en a qui sont ouvertes au travail de ça, mais j'ai souvent eu l'impression que les PVA sont pas juste captés au travail de bruit blanc, mais peut moduler des mots existants pour faire les mots qu'ils ont besoin, parce qu'il y a des mots qu'on avait déjà captés qui ressemblaient à la voix d'un animateur, mais qui me donnaient une réponse directe à une question. C'était quand même bizarre, ça. Donc, puis, tu sais, quand on utilise la portail, il y en a qui l'utilisent en fermant totalement. La portail, c'est un ajout à la Ghost Box, pour ceux qui connaissent pas, là. Ça fait en sorte de d'enlever le bruit blanc le plus possible et d'augmenter les réponses avec un effet de reverb qu'on appelle, là. Mais quand j'ai travaillé de cette façon-là, on captait beaucoup moins de PVE qu'on aurait dû normalement quand on travaillait juste avec la PSB7. Donc, notre travail va continuer encore beaucoup avec les PVE. Alex a reçu une nouvelle machine aussi. On l'a testée. Ça semblait être intéressant. C'est comme une Ghost Box mélangée avec un Ovilus. Éventuellement, je vais faire une vidéo avec lui bientôt pour présenter justement cette nouvelle appareil-là qu'on a essayé. J'ai ressorti aussi un vieux magnétophone à cassette avec un micro Sony. Je l'ai pas avec moi, là, mais ça aussi, ça va être intéressant. Je l'avais déjà amené au camp de vacances. Où on avait fait une enquête sur la mort d'un petit garçon, là. On n'avait rien capté, mais je perds pas espoir parce que sur les bandes magnétiques, beaucoup de personnes ont capté des très bons PVA dans le passé et je veux ramener cet outil-là. La seule chose, c'est que c'est un peu gros à transporter, mais vu qu'on a de moins en moins d'équipements, ben, ça dérangera pas d'avoir une valise de plus. Donc, encore là, ça va être le côté, PVA. Capté sur bande magnétique. On va réessayer ça. Pour ce qui est des enquêtes de appât paranormal, dans la prochaine année, en janvier, j'aimerais, en tout cas, j'attends une réponse, là. On aurait une enquête à faire au privé. Je donnerai pas de détails tout de suite parce que sinon je risque de décevoir du monde puis je vais me décevoir aussi si ça fonctionne pas, là. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'ont écrit dans les derniers mois pour savoir, Pat, ça fait longtemps que t'as pas fait une enquête guidée. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'intention d'en faire une, justement, peut-être janvier, février, quelque chose comme ça. Tout dépendant des disponibilités. Y a des frais qui vont être associés à ça, parce que la plupart des endroits où on est capable de faire des visites guidées, il faut payer. Y a des frais d'entrée pour chaque personne. Donc, on va essayer d'organiser quelque chose d'intéressant. Puis ça, ben, faites-vous-en pas, on va en parler plusieurs semaines d'avance, donc ça va donner le temps aux personnes de penser à s'ils peuvent venir ou si ça va à donner dans leur horaire, là. Puis on va en même temps savoir ça va être quoi les frais. J'ai quelques places en tête. Je vais me mettre là-dessus bientôt. Il y a une place. J'aimerais ça avoir une réponse positive, là. Mais ça serait écœurant, celle-là, là. Ouais, je pense que je vais le dire. Peut-être la maison Tressler. Je connais bien la propriétaire. On est allé faire une enquête deux fois. Elle nous a même fait une lettre de référence quand on est allé les deux fois, parce qu'on fait les enquêtes avec respect. Puis quand on part de là, ben tout est comme quand on est arrivé. Donc, et puis j'aime la place, puis la personne est vraiment très gentille. Il y a une grosse historique. Vous pouvez aller taper la maison de Tressler, écrire paranormal aussi, parce que sinon, ça va pas sortir l'historique, là. Il y a une belle historique d'antise à cet endroit-là, donc ça pourrait être super intéressant de vous amener. C'est sûr, je pourrais pas amener 20 personnes, mais quelques privilégiés, ça serait cool. Donc, voilà pour ça. Avec l'intro qu'on a eu, vous avez compris qu'on a des invités spéciaux. Comme à chaque émission, j'invite des gens, des passionnés. J'ai réinvité Caro et Pat parce que ce sont des bons enquêteurs. Selon moi, c'est la relève. C'est pas des gens qui vont crier au paranormal facilement. Parce que c'est ça, le travail d'un enquêteur. Avant toute chose, c'est de démystifier. C'est facile de crier au paranormal, mais c'est dur de travailler à démystifier. Tu sais, quand il se passe un truc, il faut essayer de comprendre. On va essayer de refaire la même chose avec le même appareil, que ce soit un ombrage qu'on pense avoir vu, mais on va juste vérifier si ça peut être une lumière de véhicule qui a passé dans la rue, qui a fait un reflet, les bruits qui peuvent être faits. Ben, ça peut être toutes sortes de choses, des animaux, du vent dans le micro, et... On s'est fait avoir aussi, quand on est commencé, là, nous, on a appris sur le terrain, parce que le paranormal, il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a personne qui va t'apprendre puis qui va te donner un diplôme quand que tu vas commencer à comprendre. Non, on t'apprend par tes erreurs. Et on en a fait beaucoup. Puis j'espère, avec le temps, avoir donné un petit peu de ce que je sais pour aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs. Comme ça, tu sautes une étape. Puis ben tu continues à avancer. Fait que ces gens-là, justement, ils travaillent bien. Ils ont une bonne technique, puis j'aime leur façon de faire. J'ai écouté plusieurs enquêtes qu'ils ont fait. Juste à leur parler, ben tu le vois que c'est des passionnés. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont là. Puis je pense que depuis le temps que moi je suis dans le domaine, j'en ai vu des équipes. Quand je suis arrivé, on était tout petits. Puis, au fil du temps, j'en ai vu disparaître. J'ai vu, il y a des équipes qui se sont faites, il y a eu des alliances. Ça a été le bordel un temps, le paranormal. C'était incroyable, là, ça n'avait pas de sens. Et je pense que ceux qui ont survécu, ben c'est ceux qui ont travaillé de la bonne façon. Oui, on a travaillé fort pour essayer d'avoir une émission parce que éventuellement on aurait aimé vivre de ça comme TAPS ont réussi, comme Ghost Adventure, comme les frères Kling, parce que c'était une belle passion. Tu sais, si on n'aurait pas eu besoin de travailler puis on aurait été capable de juste se concentrer là-dessus, ben ça aurait été écœurant, puis j'aurais appris beaucoup plus de choses, parce que au travail de ça, ben je veux pas, les médias nous auraient mis avec des physiciens, avec des docteurs, avec des spécialistes en bâtiment pour nous expliquer les effets de condensation, etc., qui peut créer des espèces d'ombrages ou de la brume, tu sais, là. Mais on a quand même eu la chance de travailler avec Ciné Avanti Vidéo et d'autres maisons de production qui nous a fait travailler avec des gens comme... il y en a tellement eu. Jean-François Mercier, il y a eu plein de gens de la télé qui nous ont rencontrés, etc. On a travaillé avec des perchistes, des gars de micro, des caméramans, etc. On est allé chercher de l'expérience un peu partout au travers du temps. Puis ça, ben je remercie tout le monde qui a été autour de APA. Puis pour les équipes qui sont là encore et qui sont là pour des années, j'espère qu'ils vont avoir la chance, tous autant qu'ils sont, de vivre ces expériences-là, parce qu'à un moment donné, moi je pense que ça va développer puis débloquer en quelque part. On peut pas juste acheter des émissions de télé ailleurs puis les traduire en français en disant que ça coûte moins cher de faire comme ça. Non. Il y a une belle historique de paranormal au Québec. Il y a plein d'endroits qui sont réputés. Il faut pas attendre que tout soit démoli puis dire « Hey, on aurait donc dû faire ça. Il va être trop tard. » Donc, je vais vous laisser au bon soin de ces deux enquêteurs-là, puis ben on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission.
96.9.
Vous savez comment ça se passe, DJ Crowd dans le building, Lévis, CJMD 96.9, meilleure radio au Québec.
Du Saint-Georges à Lévis.
Talk, rock et hip-hop.
Vous écoutez La Zone Insolite.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Salut, je m'appelle Caroline. Je suis accompagnée de mon collègue Patrick. Nous sommes Paranormal Investigation.
Sujet d'aujourd'hui, on va vous parler de trois lieux spéciaux qu'on a visités lors d'un voyage aux États-Unis. Le premier endroit, c'est le cimetière Stepney à Monroe, Connecticut, endroit où les époux Warren ont été enterrés. Le deuxième lieu, c'est ce qu'on appelle la Demon House sur la Prospect Street au Connecticut. Et pour finir, on va vous parler de la fameuse maison qui a inspiré le film Conjuring le premier.
Oui, bien, avant notre enquête au cimetière où Ed et Lorraine ont été enterrés, on a sauté sur l'occasion d'aller passer devant le fameux musée des Warren qui se trouve non loin du cimetière qui a fermé ses portes là, peu après la mort de Lorraine, soit en 2019.
Oui, c'est ça. La rue est pas vraiment facile à trouver. C'est comme une rue, tu tournes à gauche, là, entre deux arbres, là, ça rentre dans la forêt. Là, pis...
ouais.
En fait, c'est une toute petite rue. Puis en entrant dans la rue, ça dit « Le musée est fermé. Ne vous aventurez pas, ça sert à rien. Qui pâte, la police est avertie. Les voisins surveillent. » En partant, la rue est pas longue, c'est une petite rue cul-de-sac. Fait qu'on arrive, la maison est complètement au bout de la rue, à droite. Fait que là, on voit la maison, mais tu sais, on voit comme une petite portion de maison beige là, qui est comme camouflée par les arbres, les arbustes, puis tout ça. Puis, bon, Caroline a baissé sa fenêtre, elle a commencé à regarder. Puis moi, j'étais là, moi, je watchais les voisins. Je dis, Caroline, faut pas faire de bruit, on est là incognito. Fait que moi, j'étais énervé. J'étais fébrile de voir la maison. Je checkais dans tous mes miroirs, puis à un moment donné, je prends mon téléphone. Je prends 3-4 photos de la maison. Je dis, bon, ben, on l'a vu. Ben, ouais. Là, pour pouvoir en voir plus, il aurait vraiment fallu sortir puis
ouais.
S'aventurer, aller marcher un peu. Mais là, on commençait à se mettre un peu dans le trouble. C'était le début de notre voyage. Puis notre but, c'était pas de la finir en prison cette soirée-là.
Non, mais tu sais, on était vraiment contents d'avoir passé devant. En fait, on était fébrile à voir ce musée-là, tu sais, parce qu'on l'a vu à la TV et tout. Mais juste le fait d'être présent sur le lieu, en plus qu'on n'a pas le droit. Écoutez, ma fenêtre était ouverte. J'essayais de prendre des vidéos, des photos en rafale. Mais tu sais, t'es tellement énervé. Puis je pense qu'on était un peu aussi stressé de pas se faire pogner non plus.
Exactement.
Parce que ça ne tentait pas du tout. Fait que j'ai pris aucun vidéo, en fait. On a pris des photos en rafale là, du début à la fin. Mais on voit pas totalement le musée au complet. C'est la maison, en fait, des Warren qui avait le musée aussi, avec tous les artefacts. Hein. On sait qu'Annabelle s'y trouve.
Ouais.
Et plusieurs artefacts aussi. Mais écoute, ça a été un moment qu'on va pas oublier, parce que c'est un endroit qu'on aimerait aller enquêter.
C'est bien certain.
Oui, c'est ça. Mais bon, au moins, on a passé devant, puis c'était une mission accomplie pour nous.
Ouais.
Le fameux cimetière. Beaucoup d'émotions cette soirée-là.
Mm-hmm.
Un vieux cimetière dans la noirceur totale, des pierres tombales qui datent des années 1700. On stationne tout au fond du cimetière, mais là, essaye de la trouver à cette heure.
Écoute, il fait noir, c'est un cimetière, puis c'est entouré d'arbres. Là. Il y a comme,
ouais.
D'un côté, si je me rappelle bien, il y avait des grosses maisons, c'est des blocs appartements.
Des blocs appartements, je crois.
Quelque chose, tu sais, oui. Un multiplex, puis le reste, c'est entouré de forêt. Mais
ouais.
Il fait noir, là. C'est, commence à chercher. On sait pas et où. On a quelqu'un qui nous l'a géolocalisé, mais nous autres, on part, puis Caro part de son bord. Moi, je pars du mien, je descends vers du côté droit, puis elle du côté gauche. descends, marche, regarde un peu partout. Mais c'est quand même intéressant parce que comme le cimetière, il est vieux, c'est américain, c'est différent. Il y a des pompes à eau, comme des anciens puits là, du temps d'avant où on allait chercher de l'eau là, avec une grosse pompe. Là.
Puis aussi, il fallait faire attention où qu'on pile aussi. On ne pouvait pas marcher sur... Les pierres tombales, les emplacements non plus, il faisait noir, on sait pas on est où, on a l'excitation, on est énervé d'être là présentement, mais...
Mais c'est ça, mais on la trouve pas. Fait que là, Caro puis moi, on se rejoint au centre, ben on l'a pas trouvé. Puis là, Caro, elle parle avec un de nos abonnés qui dit...
Il me dit, OK, Caro est au début, dans le fond, quand tu rentres dans le cimetière, elle est supposée d'être là, en tout cas, c'est à la droite, là, en fait.
En entrant vers la droite. Ouais. Mais nous autres, on est allés se parquer au fond, vers la gauche.
Fait que, finalement, ben, on a vu des lumières, hein, parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas juste une pierre tombale, c'est l'emplacement au complet. Finalement, ben, on tombe dessus. Et...
Ben, finalement, de loin, on voit, il y a des petites lumières, puis là, on voit que c'est entouré de cèdres. Fait que je dis, peut-être que c'est là qu'ils l'ont peut-être un peu caché, mis à l'écart. Et comme de fait, on marche jusque-là, puis on se rend compte que, bienvenue, on est sur la tombe de Ed et Lauren Warren.
Wow! On arrive devant la pierre tombale. Écoute, j'étais tellement fébrile. J'avais les émotions dans le tapis. Mes yeux ont commencé à couler toute seule, je me suis mis à pleurer, puis en plus on était en live là. Écoute, c'était un moment tellement magique. Je pouvais, tu sais, on peut pas croire qu'on était là parce que Ed et Lorraine, c'est un peu nos idoles de paranormal en fait. En tout cas, pour moi, pour Pat aussi, tu sais, ils sont vraiment inspirants pour nous. Mais là, de savoir qu'ils sont enterrés là, moi, j'étais sans mots, là. J'étais sans mots. Puis, les yeux, ils me coulaient toute seule. J'étais plus capable de parler. J'avais tellement les émotions dans le tapis, là. Je peux pas le décrire, mais j'étais tellement contente d'être présente ce soir-là au cimetière.
Fait qu'on s'est assis, face à leur pierre tombale. Il y a un beau banc qui a été installé là. Un banc en marble, quelque chose de beau. Là, c'est justement pour les gens qui veulent aller se recueillir dans ce coin-là. Fait qu'on s'est assis là.
Ouais.
On a fait une espèce de prière, chacun de l'autre côté.
Ouais.
Après ça, j'ai laissé Caro seul. Je suis allé chercher notre matériel dans l'auto. Puis on s'est installé pour faire une petite enquête paranormale sur la tombe des Warren.
Ouais. Puis on a fait le tour aussi un peu parce que c'est un emplacement. Là, c'est pas juste la pierre tombale. Puis il y a tellement de gens... qui vont là déposer des objets spirituels, en fait. Il y a beaucoup de pierres précieuses, de colliers.
Des chapelets.
Des petites poupées Annabelle.
Oui, il y en avait 3 ou 4.
Ouais, les gens, ils vont déposer des choses là-bas, ils vont se recueillir, ils vont prier. Je trouvais ça tellement magnifique.
Beaucoup de poèmes, beaucoup de remerciements aussi pour ce qu'ils ont apporté dans leur communauté.
Ouais,
les gens sont vraiment gratifiants avec beaucoup d'artefacts, beaucoup de choses sur leur pierre tombale. Là.
Ouais.
Hey, on aurait pu faire une pièce de musée juste avec tout ce qu'il y avait là.
C'est fou. Mm. Ouais, fait que on a déployé nos appareils puis on a commencé à faire notre enquête. Ça a tellement été une soirée tranquille, côté réponse, côté activité, côté phénomène. Écoute, je peux pas dire qu'on a eu quelque chose parce que c'était tellement d'un calme, c'était paisible. J'étais très très bien, mais on n'a pas eu de réponse, on a fait du spirit.
Des bribes sur le codeux, mais on peut même pas l'attribuer à une réponse aléatoire comme ça. Non?
Exactement. Fait que j'ai vraiment rien senti à part la paix.
Une paix totale, comme si on en a parlé après. Comment ça se fait donc qu'on va sur la tombe des enquêteurs les plus populaires en Amérique? Puis on a fuck all, sweet, nothing, rien, pantoute. Ben, on en a déduit que.
Ben, en fait, tu sais. C'est des enquêteurs de paranormal, puis ça fait quand même longtemps qu'ils sont décédés. Ed, il est décédé le 23 août en 2006, hein, ça fait quand même 17 ans.
Ouais.
Et puis Lorraine est décédée, elle, il y a 4 ans, le 18 août, hein, c'est ça?
18 avril.
18 avril 2019. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils ont passé out, hein, qu'ils ont été vers la lumière direct.
Je pense pas qu'ils ont traîné longtemps ici.
Non, c'est ça, exactement. Puis ils sont allés rejoindre leurs proches, puis ils sont bien. Ils sont déjà partis, ils sont plus sur Terre. Ils en ont assez vu, puis ils en ont assez fait que notre conclusion à nous, là, tu sais, vous avez toute votre propre conclusion, mais moi, notre conclusion à nous, à moi et Pat, c'est que sont partis en paix. Ils sont partis, ils veulent pas revenir ici. Ils savent c'est quoi ici. Ils sont tellement bien qu'ils veulent plus revenir ici, en fait.
Hein? Ouais, c'est comme quand t'as une passion, un hobby, tu veux plus t'intéresser à ça que revenir dans ton monde normal. Fait qu'eux autres, ils ont tellement travaillé toute leur vie à connaître l'au-delà que c'est sûr qu'ils sont allés deep dive, là, sont allés, ils ont foncé vers la lumière, ils sont passés de l'autre bord, ils sont allés voir comment ça se passait puis qu'est-ce qui se passait.
Exactement. Ouais. Ça, c'est notre conclusion à nous, parce qu'on fait votre propre conclusion à vous, mais pour notre part, ça a été un moment, pareil, extraordinaire, mais ça a été un moment de paix.
Ça a été magique dans le sens, qui va penser à aller faire une enquête paranormale? Ouais. On a fait du ghost box sur leur pierre tombale. Ouais, pas juste du codule du ressenti. On est allé ghost box. On n'a juste pas sorti le Ouija, tu sais.
Non. Non. Mais c'est ça. Et finalement, à la fin, on s'est recueillis, moi et Pat, sur la pierre tombale. Puis on a beaucoup de pierres précieuses. Hein? On a des pierres de protection avec nous. Puis on a laissé chacune pierre de protection sur la pierre tombale. On a fait notre signe de croix, on a prié un petit peu, puis on est parti. Mais maudit qu'on a bien dormi après!
Ouais, avec toutes les piqûres de moustiques, parce qu'il y en avait en tabarouette. La présence en moustiques, il y en avait, il n'y a peut-être pas de fantômes, mais maudit qu'il y avait du maringouin.
Ouais, ça, c'était le moment le plus pénible de l'enquête. Donc, voilà pour cette partie de l'enquête au cimetière de Ed et Lorraine Warren. On se lève le matin, on a super bien dormi après l'enquête au cimetière. Une petite bulle au cerveau, hein, Pat? On décide d'aller, on était pas loin de New York, hein? On décide d'aller dans la ville de Amityville pour aller voir la fameuse maison Amityville.
Mais quelle belle ville, Amityville!
Oui, parce que en fait, c'est pas la maison qui s'appelle Amityville, mais bien la ville qui s'appelle Amityville.
Ah, c'est pour ça, Amityville!
Écoute, tout s'appelle Amityville, là. C'est tout.
La dépanneur Amityville. C'est complètement. Restaurant Amityville. Bienvenue à Amityville. Ah, c'est ça, Amityville.
Ouais.
Méchante belle ville, pareil, tu sais, des États-Unis.
C'est très, très riche.
Des grosses maisons cossues, hein. C'est vraiment. Ouais. Moi, je me verrais très, très, très bien habiter dans cette ville-là. Vraiment, c'est vraiment une belle ville plaisante américaine. Oui. Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau, il y a des voiliers, des bateaux, là. Il y a des quais partout, là.
Mais par contre, ça nous a pris 2h15, là, parce qu'il y a tellement de trafic aux États-Unis.
Ouais.
On était dans le bout de, on était dans l'État de New York, en fait. On était, à New York, là. Même, quasiment. Fait que, c'est ça. Il y avait beaucoup de trafic, mais écoute, on est arrivé là-bas, on a trouvé Ocean Avenue.
Ouais.
Je suis bonne, hein?
Ocean Avenue.
Yeah! On trouve la rue. On roule, puis là, Pat, il me dit, Caro, la maison est à ta gauche.
Ouais, moi, je checkais Google Maps, là, je savais qu'on approchait. On avait déjà l'adresse, fait que là, tu te prépares toi, ça va être ici, à ta gauche. Puis la maison, tu sais, en chaque maison, il y a des arbres, fait que, tu sais, t'arrives à la maison comme, elle est là, à gauche.
Ouais, puis tu sais, on est stressé, là, tu sais, on est content, là, des frissons partout.
Le gros smile.
La fameuse maison à Amityville, puis ça nous a pris 2 heures, là, tu sais. Fait qu'on arrive devant, j'ai ma caméra prête, je pèse sur play, je commence à filmer.
Et paf!
Oh non.
Le propriétaire est en train de loader ses vélos de montagne dans le camion, puis nous autres, on l'avait pas vu avant à cause des arbustes, des arbres. On arrive pour puncher la maison en photo, en vidéo. Et le propriétaire est là en train de mettre ses bicycles de montagne dans le camion.
Ouais, fait que là, la caméra a pris le bord.
Moment cocasse de notre voyage. Après ça, on a reviré de bord, on est allé se parker un petit peu plus loin au bout de la rue. On l'a refait à pied.
On a pris une photo assez rapido devant la maison à Amityville. Écoute, elle a changé, puis je m'attendais pas à ça. Elle a été rénovée, elle a été peinturée.
Elle a plus ses fenêtres mythiques en forme de coin d'œil en haut.
Parce que ça faisait comme un visage, des yeux maléfiques, tu sais. Ouais. Ça a été changé.
On change ça pour faire. Maintenant, on peut la reconnaître parce que nous, on la connaît, mais si quelqu'un cherche des fenêtres en coin comme ça, c'est pas ça que vous allez trouver.
Mais cette maison-là est juste magnifique. Je m'attendais pas à avoir une maison immense, mais immense. Écoute, tu sais, on peut pas rester là longtemps. On n'a pas le droit de la prendre en photo. On l'a fait. Puis ça a été satisfaisant, là. On s'entend? Ça a été satisfaisant, très satisfaisant. Mais ça a été tout pour la petite visite à la maison à Amityville. Mais j'aimerais vraiment ça retourner. Juste le fait de passer devant, c'est wow. T'sais, on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Maintenant, il y a eu beaucoup de propriétaires après ce qui s'est passé. Maintenant, il paraît que cette maison-là, il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de phénomène. Encore là. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, on ne sait pas. Mais c'est juste que si vous allez sur Google Maps et vous tapez la maison à Amityville, la maison est floutée. Donc, impossible de la voir sur Google Maps. Mais ça a été un petit 2 heures de route appréciée. Et je la referai, toi, Pat, tu la referais?
Ben, certainement. Ouais, c'est vrai. Ça, comme je disais tantôt, c'est tellement une belle ville. Puis, on a eu la chance de tomber sur une journée chaude. Puis c'était vraiment plaisant, on marchait, avec un petit vent, ça sent bon dans la ville, c'est le fun, c'est vraiment beau.
Fait que ça a été notre destination numéro 2. Maintenant, la destination numéro 3, le soir même de la maison à Amityville, on a été attendu à la Enfield Demon House, très connue aux États-Unis. On a été invité à aller enquêter avec une équipe de paranormal aux États-Unis. L'équipe Get Hunted, on est vraiment heureux puis on est vraiment privilégié d'avoir eu la chance d'enquêter avec une partie de l'équipe, en fait, parce que ce soir-là, il y avait 3 enquêtes à 3 endroits différents. Donc,
c'est vrai, hein?
Ouais, on a fait des expériences, on a fait...
Ouais, on va vous raconter ça vers la fin.
Ouais, mais ça a été... écoute, c'est un 6 heures d'enquête non-stop. Moi, je parle pas tant l'anglais, Pat, oui, donc je vais laisser Pat vous expliquer un peu. Mais écoute, on a eu la chance de rencontrer le propriétaire de cette maison-là qui est venu nous raconter son histoire. C'était un autre beau moment dans notre petit voyage aux États-Unis.
Fait que oui, hey, moment privilégié dans notre carrière, vraiment.
Ouais, vraiment.
S'affilier avec un gros team américain,
ça a été
quelque chose de vraiment... on s'en attendait pas. T'sais, juste pour vous donner une idée, là, quand j'ai proposé ça à Caro, l'équipe Get Hunted aux États-Unis nous invite à partager un moment, un 6 heures d'enquête dans ce qu'on appelle la Demon House. Je la texte Caro, je dis ça. Elle fait comme... C'est pas ça notre plan. Puis là... Je voyais qu'elle assimilait pas. Je dis, bon, je t'en reparle plus tard. Fait que là, quand j'en ai reparlé, elle fait comme, ta fuck, on était en train de manquer ça, là. J'étais pas là. Fait que là, finalement, on se met d'accord, on y va. Fait que je confirme avec le groupe Get Hunted, groupe américain, là, vraiment gros groupe américain,
ouais,
qui ont plusieurs branches, puis qui font énormément d'enquêtes dans énormément de lieux aux États-Unis.
Ben, ils ont été justement enquêtés dernièrement au musée des Warren.
Ben, voyons donc!
Avec la poupée Annabelle,
oui,
en vrai de vrai, là.
Ouais,
en tout cas.
Entre autres.
Ouais,
mais oui, c'est ce genre de groupe, là. C'est des groupes avec des bonnes personnes qui sont amis avec des bonnes personnes, dont Tony Spera, qui est propriétaire, avec son épouse du musée des Warren. En fait, c'est leur descendance. Fait que... C'est ça. Donc, on se rend avec un des membres du comité
de Get
Hunted à ce qu'on appelle la Demon House. Elle est située au 39 Prospect Street au Connecticut. C'est une maison, là, maison qui a l'air de toutes les maisons de ce coin-là, là. Toutes les maisons sont toutes pareilles. C'est toutes des vieilles maisons qui ont 200, au-dessus de 200 ans. La maison dont je vous parle, la Demon House, a été bâtie en 1771.
Mm-hmm.
De là, ils l'appellent 1771 Enfield ou la Demon House. Mais c'est ça. Ça a surtout un rapport avec l'année de construction.
Exact.
Fait que on est accueillis là-bas par notre membre de Get Hunted. Puis il y a Jay et Elka. C'est les deux propriétaires qui habitent dans cette maison-là. Qui sont présents aussi pratiquement à notre arrivée. Ils sont arrivés peut-être 2-3 minutes après. Puis nous autres, on venait d'arriver. On est arrivé un petit peu plus tard que les autres. On rentre en dedans, puis... Tu rentres dans la maison, là, c'est comme si tu rentrais dans une maison il y a 100 ans.
Ouais.
Tapis brun,
Ah ouais, des vieux lunettes.
Planchers de bois, des lampes. Eh oui, ça sent le vieux, ça sent plus vieux.
Crack.
Ça sent comme la grand-mère de ma grand-mère.
Ouais, genre.
Dans le très, très vieux, tu sais. C'est ça, ben tu rentres là-bas, puis ils disent, c'est un look 1920, des meubles d'époque, des photos, des affaires qui ont été trouvées dans des greniers.
Ouais, ouais.
Puis des affaires que t'aurais même pas idée là, de retrouver ça. Tu penses que tu rentres dans un musée, mais non, c'est une maison qui est partiellement habitée. Dans le sens partiellement habitée, parce que je vais vous expliquer vite fait. La maison, elle a été séparée en deux. La portion gauche, c'est Jay Pielka qui l'habite. La portion droite, il avait transformé ça en Airbnb. Mais une maison hantée dans un Airbnb, c'est pas très populaire pour les gens qui sont pas fanatiques de paranormal.
Non, exactement.
Fait que le monde arrivait là, puis ils sacraient leur camp en plein milieu de la nuit. Parce qu'on a entendu des pas, on a entendu des voix, on a entendu aussi une radio qui part toute seule. Fait que nous autres, on fait comme...
Wow.
Puis vous êtes partis, nous autres on court après ça, on est là-dedans, à côté. Écoute, faut savoir.
Back in Box, Lévis.
CJMD 96.9.
La radio parlée, faite différemment.
Vous aimez l'inexpliqué? Suivez-nous tous les samedis, de midi à 14h, à Zone Parallèle, suivi de la Zone Insolite.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Si on parle, la maison, elle a été bâtie en 1771. Mettons qu'on va faire un chiffron, là, elle a 250 ans. Ben, en 250 ans, ils ont répertorié entre 22 et 24.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mort dans la maison et les alentours, là, où c'est tout relié à ça. Fait qu'en 250 ans, il y a eu entre 22 et 24 morts. Fait que c'est un mort par 10 ans, là, en moyenne.
Puis qu'est-ce qu'il racontait, c'est que c'est souvent les propriétaires qui achetaient cette maison-là qui mouraient aussi dans des différents contextes, là.
Maison à deux étages, une personne enceinte, débouler les marches, c'est casser le cou en bas. Un autre qui est allé se suicider avec du gaz dans le sous-sol.
Ouais.
Il y a eu des meurtres. La maison, elle appartenait à un membre de la mafia. Il y a eu du crime organisé là-dedans. Fait que si tu peux t'imaginer, 22, 24 morts, toutes de façon accidentelle, suicide, meurtre, ça fait-tu une espèce de lourdeur, une énergie sombre, noire, là, t'imagines?
C'est une vraie maison hantée, en fait.
Une vraie maison hantée.
Ouais, c'est une vraie maison.
Ils appellent ça la Demon House. Ouais. C'est pas pour rien. C'est pas un centre d'achat, puis c'est pas la maison hantée à la ronde, là. Tu rentres là-bas, tu fais comme...
C'est lourd
ici, puis déjà, on se met dans le mood d'une maison hantée, fait que tu rentres là, tu fais comme... Et qu'il y en a de l'histoire ici. Ça fait pas juste sentir le vieux, ça sent la mort, puis ça sent... Que tu rentres, là, tu t'assois, tu te fais observer, puis on est trois dans la maison, là. Tu te sens observé de tous les bords.
Partout, puis tu sais, on est aux aguets un peu, parce que on regarde partout, on ben, est nos gardes un
on
peu.
On s'attend à une foire là, de voir des objets bouger, cogner dans les murs. Alors, on est quand même pas dans Bugs Bunny. Fait que, tu sais, on s'installe. On fait le tour de la maison, on parle un peu avec la personne de Get Hunted, puis elle avait aussi deux autres invités, qu'eux autres étaient un peu plus tranquilles, là. C'est deux femmes qui étaient en visite comme ça, comme invitées plutôt. Mais on va se concentrer surtout sur nous. Fait que on a commencé à faire un début d'enquête avec la personne de Get Hunted, qui est très très bonne pour faire... pour l'idée une enquête. On avait 6 heures, là, fait que ça passe quand même vite, 6 heures.
Ça passe vite.
Fait que, tu sais, faut être organisé parce qu'il y a deux étages. Fait que, en bas, c'est cuisine-salon. On a fait un bon bout là-dedans. Puis en haut, il y a deux chambres puis une salle de bain. Bon, on n'a pas enquêté dans la salle de bain, là, parce que ça, c'est un peu trop paranormal, là. Fait qu'on a commencé, on s'est installé au salon. Puis en s'installant au salon, t'as Monsieur Jay, le propriétaire, avec sa femme Elka, qui vient de nous rendre visite, puis commence à compter l'histoire de fond en comble de la maison. Ça dure, c'est 30 minutes de discussion.
Ouais.
C'est pas de discussion, c'est lui qui raconte toute l'histoire. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Il est allé à mairie pour répertorier tous les propriétaires, tous les accidents, tout ce qui s'est passé. Puis il est capable de partir à partir de 1920 jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Il raconte l'histoire par cœur.
C'est complètement fou tout ce qui s'est passé. Puis tu te dis, moi, j'étais assis dans le salon qui est arrivé tous ces drames-là, en fait. Puis
parlant de drame, dans le salon, justement, le salon est recouvert, il y a un tapis, mais si tu lèves le tapis, il y a eu un meurtre à un moment donné, justement, la personne de la mafia s'est fait tuer. Il y a une...
Il y a une grosse trace de sang
dans le plancher de bois franc qui est incrusté là. Ils ont recouvert. Fait que ça paraît pas aux yeux, mais nous, on avait déjà l'indice, fait que on l'a vu, tu sais.
Oui, mais c'était... Il s'est passé, en parlant des phénomènes là, qui s'est passé un peu là-bas, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que, tu sais, on sait que dans les enquêtes, il n'y a pas des phénomènes à tout casser là, aux deux secondes, là, mais on a quand même... On se sentait vraiment observé. C'était froid, c'était lourd. Tu te souviens-tu, Pat, au début, on était assis dans le salon, puis elle avait mis un détecteur de mouvement entre l'escalier.
À l'entrée.
À l'entrée, elle avait mis un détecteur de mouvement, puis il est parti. Puis il y avait...
Quelques fois.
Ouais, puis il y avait personne. Puis il y avait aussi dehors un... Comment on appelle ça, là? Tu sais, un carillon.
Pour le vent.
Mais il est à l'intérieur, comme je pense. Tu sais, il y a comme...
Il est dans le portique, oui.
Il est dans le portique. Ouais. Il y a aucun vent, il n'y a rien.
Ben non,
puis il est parti deux fois. Deux fois, on l'a entendu, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait, tu sais. Mm-hmm. Mais là, ça, encore là, on peut pas vous l'expliquer, mais ça, c'est des phénomènes qui s'est passé au début de la soirée, là. Fait que... Hey, là, le cœur qui te débat, c'est comme « wow, tu sais, dans quoi qu'on s'embarque, là, tu sais? » Ensuite de ça, bon, c'est ça, là, le propriétaire, on l'a remercié, il nous a parlé et tout, c'était vraiment intéressant, ils nous ont parlé un bon 45 minutes, une heure même. Il est tellement passionné de ça aussi, tu sais, je pense que c'est rendu une passion pour lui, tout ça, parce que le monsieur habite encore la maison. Hein? Il n'a jamais déménagé, puis il habite encore là présentement. Il a essayé de la vendre. Ça n'a jamais marché. Fait qu'il s'est dit, ben écoute, on va vivre avec les fantômes, on va vivre avec les entités, puis on va essayer de comprendre. Mais je pense qu'ils ont compris un peu ce qui se passait aussi, parce qu'il a tellement étudié, il s'est tellement renseigné sur cette maison-là. Donc, à ce temps, il est capable de vivre avec ça, d'en parler, puis je pense que c'est ça qui fait son parcours, tu sais.
Ils vivent très bien avec ça. Ils ont même aménagé leur chambre dans le grenier de la maison. Puis, à un tel point que Elka, la madame, elle me raconte, des fois, on est couché le soir, puis là, on entend marcher, on entend des pas. Il a dit, « Hey, calmez-vous, c'est l'heure de dormir. » Ça s'arrête là.
Ouais.
Fait que plusieurs fois, elle dit ça, puis moi, ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, « Wow, t'es-tu en train de te chicaner avec des fantômes, vraiment, là? » Elle dit, « Oui, ils ont besoin d'écouter, parce que sinon, je vais me fâcher. »
Ils ont appris à vivre avec eux.
Exactement. C'est ça que je veux dire.
C'est la meilleure façon de faire aussi quand on vit avec des entités.
Fait qu'au travers de notre 6 heures d'enquête, on a vraiment fait le tour de la maison. On a fait une bonne partie au salon. On a eu des réponses avec une technique que j'avais jamais utilisée. Eux autres, ils utilisent une flashlight qui vont dévisser le couvercle juste un peu. Puis, juste pour dire qu'il y a un contact qui se fait ou qui se fait pas. Tu sais, juste le point de friction là, entre les deux. Puis, de pas ça sur le foyer, mais j'étais comme, bah, c'est n'importe quoi, ça, ben, voyons donc.
Encore là, moi, je suis un peu sceptique par rapport à cette chose-là.
Ben, t'sais. C'est pour ça que j'allais dire ça. C'est comme ça. Un peu n'importe quoi. Fait que là, on pose des questions dans l'univers. Est-ce que t'es un enfant parmi nous? Puis là, comme de fait, le contact se fait, la lumière s'allume de la flashlight puis se réteint. OK, coïncidence.
Ouais.
Pose une autre question. Est-ce que t'es ici? Est-ce que t'es content d'être avec nous? Hey, encore un contact, la lumière s'allume. Ouais. Je dis, ben, coudonc, Caro, ouais. Ça fonctionne-tu vraiment?
Ouais.
Parce que là, il n'y a pas personne qui touche la flashlight. Elle est déposée sur le manteau de la cheminée. Puis, il n'y a pas personne qui est proche. Nous autres, on est assis dans le salon.
Mais, il y a une chose que je suis un peu sceptique par rapport à ça, c'est que on posait pas de questions. Là. On parlait entre nous, puis elle allumait.
Ouais.
Puis elle s'éteignait.
C'est donc, pour ça que je dis coïncidence.
Coïncidence, non, je sais pas. Je sais pas. Ça, là-dessus, je suis un peu sceptique par rapport à cette petite lampe de poche, mais on saura pas.
Si on donne la chance, comme on dit nous-mêmes souvent, c'est une science infuse, on le sait pas. C'est facile de douter que c'est des coïncidences, mais ça fait quand même le fun de se dire,
ouais.
Hey, d'un coup, c'est vraiment vrai.
Mais... par rapport à ça, moi, je suis plus sceptique.
Mais on a une réserve.
Ouais, on a une réserve par rapport à tout ça. Mais ouais, ça, c'était le deux, troisième phénomène là, qui s'est passé là, au début.
Ouais.
Ensuite,
on est monté aux chambres. Non, c'est pas ce que vous pensez. On est allé faire du ghost box en haut. On est allé faire du ghost box dans la chambre des adultes. On a posé beaucoup de questions en anglais, en français. On se dit souvent les entités n'ont pas de langue, ils comprennent tous.
Exactement.
Peu importe la langue. Dans le pays que tu peux parler en français, tu peux parler en anglais.
Oui.
Fait qu'on a fait un peu de ghost box. On a eu quelques bonnes réponses. On a fait aussi une petite portion dans la chambre des enfants. Mais tu sais, rien de spectaculaire.
Non,
on va pas faire un film avec notre soirée là-bas.
Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que c'était lourd quand on est rentré. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un potagaise. Tu sais, un potagaise, là, ça suit quelqu'un. Tu sais, ça suit toujours quelqu'un. Tu sais, c'est... Puis j'ai l'impression que le propriétaire les attire beaucoup. Mm-hmm. Parce que quand le propriétaire était dans la maison...
Beaucoup de ressentis.
On se sentait observé. C'était lourd. C'était froid. C'était vraiment spécial. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un tout le temps à côté de lui. Hein, tu sais.
Ouais.
Mais quand le propriétaire est parti, on dirait que ça a tombé mort.
L'énergie a s'est libérée.
Puis on était justement à l'étage supérieur. Puis je sentais plus grand-chose non plus. Puis tu sais, on a décidé d'arrêter parce que là, il n'y a plus rien qui se passait. Fait que, tu sais, encore là, notre conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais on a toujours une conclusion, moi et Pat, après une enquête entre nous deux, tu sais. Écoute, d'après moi, c'est ça qui s'est passé. C'est un genre de potagaise qui suit le propriétaire, puis c'est lui qui l'attire.
Ouais.
Parce que quand il est parti, on sentait vraiment plus rien, tu sais. Bon, ben voilà ce qui confirme le 1771 Enfield Demon House.
Mm-hmm.
Écoute, l'équipe de Get Hunted aimerait vraiment nous revoir avec eux en 2024. Qui sait? Beaucoup d'endroits aux États-Unis qu'on aimerait aller enquêter là-bas. Il y a des endroits là avec des où que c'est un théâtre de phénomènes paranormaux. Ben ça serait vraiment génial d'y aller, tu sais, avec.
Écoute, ils ont accès à des dizaines de lieux différents là, un peu partout aux États-Unis, mais je pense qu'ils se concentrent vraiment, de ce que je connais, ils se concentrent vraiment dans le nord-est là. Connecticut, Vermont, New York, New Jersey. Ça peut aller, je pense que de mémoire, ils vont jusqu'à Pennsylvanie. C'est vraiment comme la portion nord-est. Là. Mais des lieux en veux-tu, en v'là.
Ouais.
C'est complètement fou. Au Québec, on les cherche, les lieux. Tout le monde connaît les trois mêmes, puis on est pas mal tannés de les faire. Fait que je pense que nous autres, on est vraiment tentés d'aller vers des plus grosses places, des places un peu plus connues, pis des places qui ont une histoire de fou, là, des sanitariums, puis
des hôtels hantés aussi.
Des hôtels, l'hôtel Chanley qui nous appelle beaucoup, l'hôtel Chanley qui est réservé pratiquement aux enquêtes paranormales.
Alors, qui sait? Mais justement, parlons de notre dernière visite
qu'on
a faite pendant notre petit voyage aux États-Unis. La fameuse maison Conjuring. Ooh. La vraie en chair et en os. Écoute, on n'a pas pu aller faire d'enquête là-bas parce que vous savez, c'est un lieu qui est très, très, très médiatisé. C'est très touristique aussi. N'importe qui peut aller enquêter là-bas. C'est toujours, toujours plein. Ça coûte très cher. Et nous, ben, on s'est pris un peu dernière minute comme d'habitude. Donc, on n'a pas pu aller enquêter là-bas, mais on a pu réserver pour une petite visite d'une heure. Juste ça, ça nous a convenu pour cette journée-là. Là. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix.
Hey, c'est un bon kick-off pour savoir si on voulait aller en enquête là ou non. Puis écoute, la réponse, ça a été oui, parce que on était là une heure. Fait qu'on a, mettons...
Une heure et demie en tout.
Ah, c'est vrai, parce qu'on avait droit à un petit peu plus. Fait que tu sais, on a visité la maison avec un guide pendant les 30 premières minutes. Il nous expliquait un peu, tu sais, comment que la maison s'est agrandie au fil du temps, parce que la maman elle avait un bébé de plus, fait que ça prenait une chambre de plus. Fait qu'on grandit, on a grandi. Fait que c'est la maison est partie de la petite maison, puis on a eu des extensions, jusqu'à devenir la grande maison qu'on connaît aujourd'hui.
Mais tu sais, pour commencer, Conjuring a été bâti en 1736. C'est une maison qui est située à Harrisville, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Il y a eu plusieurs familles qui ont habité cette maison, dont la famille Perron, qui ont habité là de 1970 à 1980. C'est la vraie maison, dans le fond, histoire qui a inspiré le film La Conjuration. Justement, un des cas que les Warren ont été appelés à aller enquêter, en fait, c'était un gros cas de possession, là. Mais autour de ça, il y a une autre grosse histoire aussi.
Ben oui, il y a l'histoire de la fameuse sorcière qui se nomme Bathsheba Sherman. Ouais. Elle s'est pendue après s'être fait pogner en train de sacrifier son bébé. Mais on va pas tourner autour de ça parce que de toute façon, le segment qu'on veut surtout vous parler de la maison.
Oui, exactement. On va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Dans le fond, on veut vous parler de notre mini-expérience, notre petite visite le vécu à la maison Conjuring. En fait, il y a trois points qui s'est passé en une heure. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même eu beaucoup de choses.
Il faut dire qu'on n'était pas là en enquête. On était là en visite guidée avec un 30 minutes de lousse pour faire le tour à notre guise.
Exactement. Fait que au sous-sol, c'est là que se trouve le portail. Vous savez, c'est l'entrée, le passage pour les entités. Donc, il y a une chaise, puis il y a une expérience à faire, c'est d'aller s'asseoir sur la chaise puis de sentir l'énergie. Donc, moi et Pat, on l'a fait. Chacun, notre tour, on s'est assis sur cette chaise-là. Là, puis,
La chaise, on commence, là, on se trouve dans un sous-sol qui est vraiment profond dans terre. Les murs sont épais en béton, en pierre.
Ouais.
Puis les pièces sont séparées par des murs de pierre aussi. Fait que tu rentres dans la pièce, déjà t'as une oppression normale. Là, tu fais comme tu t'habitues, puis tu te mets en noirceur. Puis, tu sais, quand on se met dans le mode ressenti, là, on sent vraiment, là, comment est-ce qu'on peut bien vous expliquer comment est-ce qu'on ressent un portail, nous, dans notre ressenti. À nous, on sent comme si... s'il y avait un magnétisme qui nous attire vers le centre de la Terre, c'est comme si notre poids devenait encore plus fort.
Exactement.
Comme si on s'écrasait. Excuse-moi, je te coupe la parole depuis tantôt, mais on est tellement dans le mode, quand on commence à en parler, ça devient fou. Là.
C'est comme une immense énergie qui est autour de nous. C'est comme un aimant qui nous attire vers le bas. On sent vraiment la pression sur nous. Écoute, on a fait de l'expérience, moi puis toi, puis moi, j'ai adoré.
Ouais.
On n'avait pas beaucoup de temps, fait qu'on l'a fait chacun notre tour, puis ça a été tout. Mais l'énergie, là, on l'a vraiment senti.
Oui, on l'a vraiment senti. C'est vraiment comme un centre énergétique. Je pense qu'on l'a décrit trois fois, là. Si on continue, là, tu sais, juste pour pas qu'on... Parce qu'on pourrait en parler tellement longtemps de cette maison-là, mais ça va être dans un autre segment parce qu'on prévoit vraiment l'investiguer en 2024 pour une nuit complète, ou peut-être même plus, là. On veut vraiment faire quelque chose de majeur parce que, tu sais, on l'a eu pour 30 minutes, là, en visite libre après la visite guidée, puis on a vraiment senti qu'il y a vraiment énormément de potentiel dans cette maison-là.
Ouais.
Étant donné l'année, les histoires, puis tout ce qui se trouve il y a des rumeurs de militaires qui ont été coulés dans le béton ou enterrés dans la cour. Encore là, c'est du tabou, puis ça n'a pas été prouvé encore, mais l'histoire de Bathsheba, l'histoire de possession de Caroline. Fait que, tu sais, la maison, elle regorge d'énergie, puis de choses, puis beaucoup de familles qui ont passé là.
Ouais.
Donc, autre que le portail où... qu'est-ce qu'on a vu
ben,
d'autre de beau?
Dans la chambre, la deuxième chambre au deuxième étage, en fait, il y avait un petit une table de chevet avec des voitures dessus.
Oh.
On rentre dans la chambre, là, on est à peu près une dizaine de personnes pour la visite guidée. Il y a l'animateur qui est en train de parler. Puis en rentrant, il y avait un petit autobus sur la table, puis elle s'est projetée sur le pied à pattes, sur son soulier.
N'ayez crainte, je n'ai pas été blessée.
Fait qu'on s'est regardé, tu sais, puis là, il y avait deux garçons à côté de nous autres. En tout cas, ils étaient blancs comme des draps, ils ont eu peur. Ils sont partis à côté de l'animateur, très cocasse, c'était très, très drôle. Et puis, pendant le discours à l'animateur, il a parlé de cette fameuse autobus qu'un jour, il était dans cette pièce-là, à peu près à 2-3 mètres de la table de chevet. Puis cet autobus-là s'est projeté sur son pied.
Ouais.
Donc, tu sais, on sent vraiment l'énergie d'un enfant aussi. C'est spécial, ouais. C'est peut-être Henry qui est là. Mais en écoutant des vidéos sur des équipes de paranormal, des équipes d'enquêteurs qui ont fait enquête justement à Conjuring, cet autobus-là revient souvent.
Ouais.
Puis j'étais pas au courant de ça, mais ça nous est arrivé, donc... En allant enquêter là-bas dans le futur, on va essayer peut-être de démystifier le mystère de cet autobus-là aussi.
Ouais, pour surfer là-dessus, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que des fois, on fait des lieux qui sont vraiment épeurants. Des fois, on va dans des places, là, on a la chienne, tu sais, je veux pas, c'est de l'adrénaline pure hein, qu'on vit. Puis quand on est au deuxième étage, dans la chambre des enfants, tout ce qu'on ressent, c'est un petit goût de sourire, là. On a le goût de sourire. T'as les petits coins de lèvres qui montent vers le haut. C'est vraiment pas épeurant. C'est chaleureux. La maison est chaude.
Ouais, on sent l'énergie, là.
Puis en plus, ben, on se fait titiller par des jouets d'enfants.
Ouais.
On est dans une chambre d'enfants.
Ouais.
Puis là, après ça, ben, il y a l'autre chambre d'enfants avec le garde-robe walk-in.
Ouais.
Où ce que vous pouvez voir, dans le film, il y a le petit Rory. Son vrai nom, c'est probablement Henry. Si on retrace les histoires, mais c'est ça. Nous autres, on a passé du temps dans le garde-robe.
Dans le garde-robe. On s'est faufilé les deux en haut.
Ouais. C'est un grand garde-robe walking de 20 pieds. T'sais, on rentre d'un bord, puis on sort de l'autre 20 pieds plus loin. Puis l'animateur, M. Reed, il dit, des fois, il s'amuse à toucher les gens, les chatouiller, tirer les cheveux.
Ouais.
Fait que, tu sais, ne soyez pas surpris. Si vous vous enfermez dans le garde-robe, vous allez avoir une petite visite de Rory. Hey, Caroline puis moi, on est comme, ah ouais, go, après la visite, on s'en va dans le garde-robe, ferme les deux portes, puis on se met dans le mode. Tu sais, on avait à peine 2 minutes. Mais là, on était comme, hey, on est dans le garde-robe du petit Rory. Comment est-ce qu'on vit ça, là? Puis là, on se met dans le mode en 2 minutes. Puis comme, hey. En tout cas, tout ça pour vous dire, l'enquête, on va la faire. On va la faire en 2024, probablement.
Oui.
On est en train de planifier déjà.
Exactement.
Notre équipe d'enquêteurs. Puis, ça va être un rendez-vous. Puis c'est sûr que ça va être un bon segment à vous raconter, ça.
Ah oui, parce qu'on va sûrement vivre certains phénomènes. En tout cas, j'espère bien. Ça va être une enquête qui va durer de 10 à 12 heures. C'est une nuit complète. Donc, en espérant d'avoir certains phénomènes, hein, tu sais, c'est pas sur commande, ça. C'est pas tu demandes, tu vas recevoir, là. Mais en tout cas, avec juste la petite visite qu'il y a eu, mais ça nous donne encore plus le goût d'aller enquêter là-bas, tu sais. J'ai pas vraiment senti d'énergie négative, contrairement à l'histoire de cette maison-là, que ses possessions, il y a eu un exorciste aussi. J'ai pas vraiment senti du mal, j'avais juste souri quand je rentrais là. C'est sûr que c'était le jour, il faisait clair, il y avait d'autres gens, mais ça va, tu sais, de toute façon, on peut retourner dans un endroit 8 fois, puis les 8 fois, ça va être toujours différent. Les phénomènes vont être différents, des fois il y en a, des fois il y en a pas, des fois c'est à l'analyse, des fois, tu sais, c'est y a pas une fois que c'est pareil. Donc,
c'est vraiment pas la même oppression qu'on avait vécu en notre entrée dans la Demon House au
Connecticut,
qu'on vous a raconté plus tôt aujourd'hui.
Ouais.
On rentrait dans quelque chose de lourd. Là, on rentrait... Ben, écoute, je peux pas dire une joie de vivre, là. Il y a quand même eu une possession.
Ouais,
il y a du diabolique puis de la sorcellerie qui s'est passée là. Plusieurs morts, plusieurs familles. Mais quand même, tu sais, on rentre là dans l'espoir de retirer des, des preuves, toujours.
Exact. C'est d'aller valider un peu ce que les gens disent. C'est l'histoire de cette maison-là. Ben, nous, notre but, c'est d'aller confirmer un peu les faits de cette maison-là, tu sais, les phénomènes, toutes les histoires qui s'est produites dans cette maison-là. Donc, mais c'est à suivre. Donc,
ouais.
Ben, je pense qu'on a fait le tour un peu de notre petit voyage aux États-Unis. Ça a été 3 jours assez intense. On a fait beaucoup de voitures, mais j'espère qu'en 2024, on va pouvoir y retourner avec Get On Ted aussi.
C'est certain qu'on va y retourner.
Ouais, on va y retourner. Là, on planifie ça tranquillement, pas vite. Là, ça va être de quoi de gros. Donc, ben, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir grandement écoutés. Puis toujours un grand merci à Pat de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir.
Merci.
CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
Politique correct.
Pierre Poilievre demande des excuses, mais lui devrait en donner tout autant. S'il avait montré ne serait-ce qu'une bite de sympathie pour la paix depuis 18 mois, je le croirais peut-être un peu dans son indignation, qui me fait penser à de l'indignation à la Justin Trudeau en décalant des affaires. Mais au contraire, je fais une entrevue avec Pierre Poilievre, c'est quand la dernière fois? Son staff me demande de pas aborder la question avec l'Ukraine. Petit crosseur. Ça, avoir la même position que Trudeau, le liberticide, là-dessus, ça a contribué au climat d'impunité autour de ce qui se produit. Et donc, à arriver à inviter carrément un nazi à la Chambre des communes, l'applaudir de façon plus que disgracieuse. Poilievre a contribué à ça. Il n'était pas capable, en 18 mois, de parler une fois de paix, puis de contrer une fois une demande de financement à coût de milliards, qui génère de l'inflation en à côté, 10 milliards à l'Ukraine à date. Hein? C'est un petit peu moins en proportion que ce que les États-Unis donnent, mais ça se ressemble. Et c'est sans reddition de compte, jamais. Fait que tes petites demandes d'excuses, Pierre, c'est pas sincère, c'est factice à la Justin Trudeau. S'il vous plaît, comprenez-le, c'est la même facette, c'est deux facettes de la même pièce de monnaie, ces gens-là.
Politique correcte, votre retour en semaine dès 15h.
Comme je l'ai dit bien amusement.
Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9.
969.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
De retour de la pause, un gros merci à Caro et Pat, toujours très intéressant, puis c'est certain que je vais vous réinviter, soyez-en sûrs. Donc, j'ai parlé tantôt de la dernière enquête qu'on a fait avec la famille de Repentigny. J'en ai déjà parlé dans le passé, et quand j'avais un groupe de discussion sur Facebook, j'avais fait un live et j'avais échangé avec plusieurs personnes. Et il y a une question qui revenait souvent et ça m'a pris du temps avant de répondre à cette question-là. C'était, c'est quoi qui a fait en sorte que tu en es venu à t'intéresser au paranormal? Ça a pris au moins 10 ou 11 ans avant que j'en parle. C'est ça qui fait en sorte aussi, ce que j'ai vécu plus jeune, c'est ça qui fait que quand que il y a une famille avec des enfants impliqués qui vivent des choses inexplicables, même si j'ai des gros projets, je vais toujours faire passer cette famille-là avant n'importe quoi. Parce que c'est une situation qui peut faire du mal à une famille. Moi, quand j'étais jeune, ça a commencé à l'âge de 8 ans. Dans le fond, c'est au moment où on a déménagé dans un nouveau bloc appartement du quartier Saint-Michel. Et là, je vais faire une parenthèse. C'est certain que quand on emménage, ou peu importe qu'on ait visité un endroit pour faire une enquête ou une exploration urbaine, quoi que ce soit, le fait de mettre les pieds pour la première fois dans un endroit, que ce soit une nouvelle maison ou que ce soit un endroit délabré, il y a toujours le sentiment d'inconfort, d'insécurité parce que on connaît pas l'énergie de la maison, c'est tout des nouveaux bruits, il y a les voisins autour, il y a les craquements, donc ça va venir apporter une certaine crainte, puis ça peut prendre quand même plusieurs jours, avant de voir des semaines, avant de t'habituer. Étant jeune, je pense que c'est pire, parce que j'étais déjà dans une chambre où c'était nouveau. Et là, c'est ce qui... L'affaire là-dedans qui dérange quand tu y repenses, c'est que quand tu te lèves la nuit pour aller voir tes parents pour essayer de leur expliquer ce qui se passe, ben ils vont c'est justement ça qu'ils vont dire. Ah, ça va passer, c'est normal, c'est nouveau, tu vas voir, tu vas te faire. Sauf que je me souviens que la première fois que j'ai vu cette espèce de, on va appeler ça une apparition là, c'était translucide, gris, transparent, puis c'est bizarre les mouvements que ça pouvait faire. Et la nuit, le seul éclairage qui rentrait par la fenêtre, c'était le lampadaire qui était en diagonale, et c'était des anciens stores là qu'on descendait puis qu'il y avait presque pas de lumière. Donc quand il y avait une voiture qui passait, je me rappelle que ça faisait un reflet, on entendait la voiture et ça faisait un reflet qui disparaissait et qui revenait de l'autre côté de la fenêtre, qui faisait un petit éclairage. Il y avait une petite veilleuse aussi au niveau des toilettes, donc cet éclairage-là faisait en sorte que j'avais le bas de la porte de la chambre qui était quand même avec une certaine lumière, et c'est ça qui faisait en sorte que je voyais cette chose-là. La plupart du temps, quand que je me réveillais, c'est parce que ça avait... Je dis crier, mais c'est pas crier, c'est un chuchotement fort côté de ma tête. Et là, je me réveillais et c'était placé à divers endroits. C'était pas toujours à la même place dans la chambre, là, mais c'était quand même assez près de la lumière pour que je sois capable de voir qu'il y avait quelque chose et que c'était pas normal. C'était pas un être humain qui était là. Donc, plusieurs reprises, je réussis à partir à courir, je prends mon courage, je m'en vais voir les parents, et ben là, on me ramène en chambre. Fait qu'il faut que je dorme en dessous de mes couvertes. Ça, c'était une situation que je me souviens que j'avais trouvé ça très dur. T'es pas supposé de vivre des trucs comme ça, puis ce qui est encore plus dur, c'est quand les gens te croient pas. Et c'est la raison pour laquelle je m'implique beaucoup plus quand c'est des familles avec des jeunes enfants. Ce qui a fait déborder le vase dans cette maison-là, tout avait changé. L'énergie, on sentait que c'était on n'était pas bien dans la maison. Il y avait beaucoup de chicanes qu'il n'y avait pas à l'autre endroit où on était avant. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avant notre arrivée, mais d'après moi, il y avait pas une bonne énergie qui était là. C'est souvent le résiduel qui est resté par la suite, avec quelques petits compagnons qu'on aurait pu se passer là, vécu des choses vraiment que j'aurais pu me passer dans cette maison-là. Et ce qui a fait déborder le vase, c'est qu'à un moment donné, je me réveille la nuit, c'est en hiver, et je sais pas pourquoi, je torse un peu le rideau, je regarde, ma fenêtre donne accès visuellement au balcon. Il y a une tank à huile qui est là, mais ça m'empêche pas de voir la porte de 6 pieds dans le fond qui empêche d'aller de l'autre côté pour descendre les escaliers. Donc, ce que je vois là, c'est, encore là, il y a une lumière à l'extérieur qui est claire, et je vois une grande silhouette noire qui est là. Je peux pas distinguer... c'est sûr que ça ressemblait à un homme, c'était quand même assez carré, là. On dirait que ça attend pour qu'on vienne y ouvrir la porte. Puis là, je referme mon rideau et là, je me disais, voyons, s'il m'a vu, c'est sûr que il va essayer de passer par ma fenêtre ou quoi que ce soit. C'est des souvenirs que je me souviens quand même assez bien, là. Et encore une fois, je m'en vais dans la chambre, les parents, je les réveille, quelqu'un dehors. Et là, ils vont me voir, puis ben, il y a personne. Puis pour me réconforter, ben... Et ils me disent, gars, il n'y a pas de traces dans la neige, il y a personne qui est venu ici, là, puis c'est impossible de passer par-dessus la porte, là-dedans, donc. Fait que, cet événement-là, ça a fait en sorte que moi, je voulais plus, j'étais petit, là, j'étais rendu à 9 ans, là, fait que ça a duré presque un an. Et j'ai tout fait, moi, pour m'en aller de là. Et finalement, ben, j'ai réussi. C'est une partie de ma vie que, C'est pour ça que ça m'avait pris du temps pour en parler, là. Donc, j'ai été vivre ailleurs pendant plusieurs années. Et, bizarrement, ben, pendant toutes ces années-là que j'ai été ailleurs, j'ai vécu d'autres choses, mais rien de paranormal, là. J'ai vécu des choses que j'aurais pas dû vivre non plus, là. Mais ce côté-là, j'ai plus jamais eu affaire à ça. Jusqu'à temps que, là, ma vie, elle a passé. Je rencontre une ancienne copine, c'était dans la région de Verdun, et là, ben, il y a des petites affaires qui se passaient dans cette maison-là, mais on avait parlé un peu, elle avait déjà vu un monsieur avec un chapeau haute forme, à plusieurs reprises, et à un moment donné, on se lève presque tout le monde en même temps, on est dans le passage, et là, son père à elle sort de la chambre, t'es en train de mettre un chandail, et... C'est les vieilles switches pour allumer les lumières, le on-off, là, ça fait tac-tac quand on les quand on l'allume ou quand on l'éteint. Là. Pendant qu'il met son chandail, il est à l'extérieur de la chambre. Et là, ça fait tac, puis la lumière, elle allume. Il n'y a personne d'autre dans la chambre. Il vient de sortir, il avait les deux bras dans son chandail en train de le mettre. Et là, il s'est reviré de bord, il a rentré sa tête, il s'est reviré, puis il a dit, vous avez vu ça? Là? Oh, ouais, on l'a vu. Cet endroit-là, on entendait cogner dans les murs. Il y avait pas de vent et c'était on avait l'impression qu'on se faisait toujours frôler le poil. C'était vraiment bizarre. Et là, ben, je me suis remis à repenser, à revenir en arrière à tout ce que j'avais essayé d'oublier. Et là, ben, on s'est mis à discuter de ça. Et là, ça a retombé à l'eau. J'ai été quelques années jusqu'à temps que, ben, je réencontre, je sais pas comment le dire, là. Ma femme, avec qui je suis encore aujourd'hui, et que une journée, on était devant la télé, on écoutait Taps dans le temps, c'était dans les débuts, presque dans les débuts. Et là, ben, on s'est mis à jaser de choses inexplicables, de paranormales, des histoires qu'on avait entendues, c'était là. Et là, elle me racontait un truc qu'elle avait vécu il y a une dizaine d'années. Et là, moi, j'ai raconté mes choses, puis là, on s'est dit, hey, ça serait le fun, on a quelque chose en commun, on a vécu toutes les deux quelque chose, on pourrait essayer d'aller sur le terrain pour essayer de comprendre. On sait pas comment on va s'y prendre, mais on regarde les émissions de paranormal, puis on va essayer de se renseigner où est-ce qu'on peut se procurer de l'équipement, comment les utiliser, etc. Et c'est devenu une passion très rapidement. On a réussi à rentrer en contact avec des personnes qui nous ont fourni des équipements de base. On a été un an à comprendre ces appareils-là. Je me souviens, il y avait un gars qui nous suivait sur notre groupe de discussion. Et lui, c'était quand même quelqu'un de calé parce qu'il nous avait fabriqué des petits détecteurs de champs électromagnétiques de base. Parce que ceux qu'on avait, nous... C'était pas la grosse affaire, là. Mais ça faisait très bien la job. Et là, il y a du monde qui nous ont approché tranquillement. Et là, ça faisait un an qu'on allait sur le terrain. On allait pratiquer dans des places où ce qu'on se disait, bon, il va peut-être avoir de l'activité, on va être dans un cimetière ou, fait on a vécu des petites choses. Et c'est bien qu'on ait fait ça parce que on prenait beaucoup de photos. Et là, on réalisait qu'on avait des petites boules blanches, etc. Puis là, ben, on a fait des tests, puis là, on a réalisé que ces petites boules blanches-là, c'était de la poussière. Donc, on a appris sur le terrain, on a appris de nos erreurs. Donc, il y a eu, comme je disais, il y a eu beaucoup de monde dans diverses sphères de la société qui se sont ajoutés à nous. Il y a des personnes qui travaillent en santé mentale, on a eu des électriciens, Eric, que c'est une tête, je peux pas comment le décrire, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Je suis pas sûr pour lui lancer des fleurs, là, mais lui, là, il peut me démonter une caméra puis la remonter puis dire, OK, gars, je suis capable de t'en faire une avec telle, telle affaire. Puis ça, il y a des vidéos sur YouTube, là, qu'on a publiées. Il a fabriqué une Tesla, je l'ai encore d'ailleurs, qu'on a commencé à l'utiliser il y a 2 ans, là. Au travers de tout le monde qui a fait affaire, ben, dans le fond, qui ont été dans l'équipe de À pas par normal, ça nous a permis de grandir, de corriger, puis de devenir meilleur. Donc, je reviens au début. La raison pour laquelle je suis dans le domaine, c'est que je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour être capable d'aider les gens qui en ont besoin, réellement. Faut savoir que la personne en santé mentale qui est dans l'équipe nous a grandement aidé à évoluer, parce que plusieurs situations qu'on a faites face, qu'on n'avait pas d'affaire à être là, qu'on aurait pu juste alimenter une crise. Puis c'était pas nous qui ça avait besoin, là, c'est vraiment à côté santé mentale. Fait que avec Marie-Josée, ça nous a permis d'avoir un contact. Quand on voyait que ça allait pas, on mettait Marie-Josée en contact avec la personne. On allait même là pour la rassurer aussi là avec elle. Puis je pense qu'on s'en est bien tiré. Fait que, dans le fond, c'est pour ça. Je suis dans le milieu parce que j'aimerais, en tout cas, aider du mieux possible. En ayant l'expérience que moi j'ai vécue, je me dis, ça serait triste, parce que c'est sûr que ça arrive encore, là. C'est pas tout le monde qui vit des phénomènes inexplicables qui vont nous contacter, là. Il y a plusieurs équipes. Mais, c'est des situations qui sont dures à gérer. Puis je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a un couple qui était sur le point de se séparer, puis ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, puis eux avaient emménagé dans une ancienne école. C'était quelque chose d'impressionnant. On avait réussi à capter des preuves pour montrer au monsieur, au mari de la dame, là, qu'il y avait réellement des choses inexplicables qui se passaient dans la maison. Donc, puis finalement, ça s'est bien terminé. Fait que j'encourage tous ceux qui sont dans le domaine, peu importe pour les raisons pour lesquelles vous êtes dans le milieu, excusez, allez chercher le plus possible l'expérience que vous avez besoin. Posez des questions, allez voir des gens qui ont de l'expérience. Vous n'êtes pas certain d'un appareil que vous utilisez, ben si vous n'êtes pas certain, arrêtez de l'utiliser ou faites des tests. C'est important. Il y a des choses qui peuvent mettre en induire en erreur. Puis le but, ben, comme je dis toujours, c'est pas d'inventer du paranormal, c'est vraiment de démystifier puis d'essayer de comprendre du mieux possible. Il y a des enquêtes que j'ai faites il y a 3 ans, là. Il y a des petits trucs qu'on a captés, puis je les mets de côté parce que je me dis qu'il y a peut-être une explication. J'ai jamais publié ces enquêtes-là encore, puis ce qu'on avait capté. J'ai montré ça à des gens autour de moi, à Alex, à Eric, puis on n'arrive pas à s'entendre sur qu'est-ce que ça pourrait être. Mais peut-être qu'à un moment donné, je sais pas moi, avec un nouveau logiciel, où je vais peut-être tomber sur une enquête où il va se passer la même chose, sauf que on va peut-être être capable, au travers de cette enquête-là, c'est de comprendre ce qui s'est passé, puis ça veut pas dire que c'était paranormal. Donc, je suis un passionné, je vais avouer que je suis un passionné, mais je sais pas si je peux dire que je le suis de moins en moins. J'ai l'impression que j'ai fait le tour depuis le temps que je suis là. Qu'est-ce qui me réactive, c'est quand je réussis à mettre la main soit sur des nouvelles enquêtes avec des témoins, des lieux historiques, ou ben non, un appareil qui promet, comme la Tesla, quand on l'a essayé dans une école à Oka, là, aussitôt qu'on l'avait allumé dans les catacombes, on a entendu un cri qui venait du fond du couloir, et puis ça c'est clair, puis on l'a publié, ce cri-là, là. Puis là, je me suis dit, oh, OK, j'ai hâte de faire une autre enquête. C'est sûr qu'on va l'essayer, cet appareil-là. Je veux vraiment essayer de voir c'est quoi qui fait en sorte que ça fonctionne ou que ça fonctionnera pas. Donc, comme j'ai dit, on a vraiment... J'avais tellement d'équipements au début, là. C'était incroyable. Là. Après 3 ans, là, on avait 2 systèmes DVR. Ça donnait l'équivalent de 20 caméras plus 4 caméras d'épaule. Des codeurs, des sortes d'affaires. Puis dans ce temps-là, là, les magasins de Ghost Hunter, là, ils en vendaient du stock. Puis on a tout essayé. Puis ça avait même pas de sens. Je vous donne l'exemple. Quand on est allé au Fort Henry, là, juste installer l'équipement que j'avais, là, ça a pris 3 heures. Après 3 heures, comme, c'est long, là. Puis c'est pas ça, c'est que quand l'enquête est finie, là, mettons que l'enquête a duré 6 heures, mais là, il faut que t'analyses. Puis, tu sais, il y en a qui étaient contents d'enquêter, mais qui le sont moins quand c'est le temps de faire l'analyse. Puis ça, les enquêteurs qui m'écoutent, là, vous savez de quoi je parle, là. Moi, au contraire, j'aime enquêter, mais j'aime encore plus analyser. Donc, si on avait 8 caméras qui avaient fumé pendant 6 heures, mais là, il y avait de la job qui nous attendait parce qu'il fallait vraiment regarder minute par minute. Pas parce que t'as rien vu ou que t'as rien entendu, que t'as rien capté. Au contraire, des fois, tu penses que c'est tranquille, mais tu réalises que sur l'audio, t'as capté des voix qui essayaient de te parler ou qui te donnaient des réponses que t'as pas compris. Donc, ça me réactive un peu. Je vais vous dire quelque chose, là. Je suis content de recommencer à faire la radio, ça me manquait. Le temps que je n'ai pas fait de la radio, moi et Alex, on était supposés de faire des podcasts, puis finalement, le temps nous a manqué. Quand moi, j'avais le temps, lui, il l'avait pas, puis vice-versa. Donc, je suis content de revenir, vous raconter mon expérience, parler de certaines choses. Puis, je suis encore plus content de trouver des nouvelles personnes, des nouveaux passionnés, sont là. Je vous promets que JL va revenir. Je dois parler avec lui dans les prochains jours. Dom aussi. Il y a des équipes d'enquêteurs qui n'existent plus, mais que je suis encore en contact avec eux. J'aimerais ça aussi qu'eux reviennent parler des expériences qu'ils ont eues sur diverses enquêtes. Puis vous savez quoi? Ceux qui nous écoutent en ce moment, là, si jamais vous avez vécu des choses inexplicables, ou peu importe, des trucs que vous avez vécu puis que vous avez envie qu'on l'entende, vous pouvez nous écrire en privé. On peut peut-être organiser quelque chose pour que, si ça vous intéresse, raconter l'histoire que vous avez vécue puis comment vous en êtes sorti. Comme que je parlais tantôt, là, les familles avec des enfants, là, bon, si jamais ça vous est déjà arrivé, ça pourrait être intéressant de raconter, entre parenthèses, les victimes de ces phénomènes-là. Donc, vous pouvez nous écrire en privé. Sur Rapport Paranormal, la page dans le fond, là, ça va nous faire plaisir de retourner les messages. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci à ceux qui ont participé, puis on se revoit très bientôt. Salut tout le monde.
Vous avez raté le début de l'émission d'aujourd'hui? Pas de panique! Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sur notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com.
Salut, c'est Danny de Ageless Man. Vous écoutez CJMD 96.9.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.